Et bonjour Tiffaine, de notre côté, on continue d'explorer l'univers du mystérieux Dante Alighieri.
La Compagnie des Œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. La comédie de Dante, devenue divine avec l'ajout de cette épithète par Boccace, a été l'un des livres les plus diffusés du Moyen-Âge. Des ateliers entiers de copistes se sont attelés à en multiplier les exemplaires, en y faisant parfois d'ailleurs des modifications de leur cru. Il faut dire qu'au-delà des visions presque chamaniques que le texte donne de l'enfer, du purgatoire et du paradis, la Divine Comédie est également le tout premier texte écrit dans une langue, l'italien, qui n'existait pas en tant que telle et que Dante élabore à partir du toscan, du provençal et du sicilien, ainsi qu'à partir de ses propres trouvailles. Sa vie, elle n'est pas très connue. Il est né en 1265 et mort à l'âge de 56 ans. Il a rencontré enfant une petite Béatrice qui fut pour lui l'image même de l'amour. Il a fait de la politique et ses prises de position lui ont valu d'être écarté de sa ville de Florence, comme nous l'a raconté Bruno Pinchard lors de notre premier épisode. Demain, nous reviendrons sur la Divine Comédie. Ce sera en compagnie de Daniel Robert qui l'a traduite pour Actes Sud. Enfin, dans le dernier épisode de cette série, avec Jean-Pierre Ferrini, nous reviendrons sur différentes lectures qui ont été faites de son œuvre, comme celle de Philippe Solers, de Borges, de Mendelstam, de Beckett ou encore de Pasolini. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour faire un parcours dans l'œuvre de Dante, nous sommes dans votre compagnie, Didier Ottaviani. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur Dante, par exemple Dante l'Esprit Pèlerin, publié en 2016 dans la collection de poche Point Sagesse des éditions du Seuil, mais également La philosophie de la lumière chez Dante, du Convivio à la Divine Comédie, ça c'est chez Classique Garnier et c'était en 2016. Et donc on va tenter avec vous de parcourir l'œuvre dans ses différents aspects, parce qu'il n'y a pas, c'est peut-être par cela qu'il faut commencer, il n'y a pas que la Divine Comédie, Didier Ottaviani, il faut parler aussi des autres livres de Dante.
Alors effectivement, Dante est souvent réduit un petit peu à la Divine Comédie, et même parfois surréduit à l'enfer, parce que très souvent on ne lit que l'enfer.
En réalité. Et pourquoi est-ce qu'on ne lit que l'enfer alors ? C'est parce que c'est ce qui nous attire ?
Alors je pense parce que l'enfer, c'est des images qui sont des images très fortes, c'est des peintures un peu de qui ressemblent à du grotesque, qui suscitent l'imagination et qui font peur, etc. Il y a beaucoup d'aventures en enfer. Alors que on peut, à l'opposé, voir un paradis un petit peu ennuyeux, dans la mesure où... Alors moi, ça m'a beaucoup intéressé en tant que philosophe. On y trouve beaucoup de doctrines philosophiques, mais comme il a la difficulté de dire ce qu'il voit, il y a un problème de langue, il y a une réécriture complète. Donc c'est quelque chose qui est peut-être moins accessible.
Moins spectaculaire aussi.
C'est beaucoup moins spectaculaire, il y a beaucoup moins d'images, puisque tout est lumineux, mais bon, il y a moins de... de choses incroyables, parce que l'enfer, c'est des scènes incroyables, c'est du Jérôme Bosch perpétuel. Et donc, souvent, le lecteur est amené à entrer par l'enfer et souvent y rester.
Donc, on ne parle que de ça, alors, finalement. Enfin, c'est ce qui est le plus connu, c'est l'enfer.
Du grand public. Alors après, évidemment, les spécialistes de Dante lisent tout, et les gens qui s'intéressent vraiment à Dante lisent tout, notamment si vous le lisez en italien, parce que en italien, l'italien du paradis est quand même un italien exceptionnel, avec beaucoup de néologismes, qui est une véritable réécriture de la langue. Mais c'est vrai que, je le dis d'expérience pour les gens que j'ai pu rencontrer, les gens ont tendance à s'arrêter plutôt à l'enfer. Quant aux autres œuvres dont vous parliez, souvent elles sont un peu laissées de côté, alors qu'elles sont absolument essentielles pour comprendre un peu la genèse, effectivement, de cette œuvre majeure. Et surtout pour comprendre un petit peu, eh bien, comment Dante aborde différentes thématiques et évolue au niveau de ses réflexions tout au long de sa vie.
Alors parce que, est-ce que ces œuvres-là forment un ensemble qui inclut la Divine Comédie, ou est-ce qu'il faut les lire séparément ?
Alors, c'est une question compliquée, parce que, évidemment, on pourrait dire qu'il y a une sorte d'englobement général de toute l'œuvre à l'intérieur de la Divine Comédie, puisqu'on revoit un petit peu toutes les thématiques qui ont été celles des premières œuvres. Mais, pour ma part, je serais plutôt partisan d'une lecture souvent assez historique, c'est-à-dire remettre chaque œuvre dans les moments de la vie de Dante où elles ont été écrites, parce que le niveau d'écriture n'est pas absolument identique et le niveau de réflexion n'est pas assez identique. C'est-à-dire que, par exemple, il a fait sa formation philosophique essentiellement après la Vita Nova. Donc, c'est ce qu'on va trouver dans le Convivio.
Oui, donc assez tard dans sa vie, alors.
Oui, assez tard, parce que ce n'est pas du tout quelqu'un qui a une formation classique, au sens où il serait allé faire des études universitaires, etc. C'est d'abord un poète. Donc, il a d'abord une formation poétique, et ses premières œuvres vont être moins philosophiques au sens technique du terme, que l'on peut trouver, par exemple, ce sens technique dans le Convivio, mais qui interviendra après une période de sa vie où il a quand même fait des lectures. Il a eu des maîtres, florentins notamment, en philosophie, qui l'ont amené à développer des choses qu'il ne maîtrisait pas forcément parfaitement, même s'il y a des indices, même s'il a des idées, même s'il y a une forme de philosophie dans les premières œuvres. Elle n'est pas aussi technique que celle des œuvres suivantes. Donc c'est important de savoir un petit peu quelle a été la formation et quelle a été son histoire personnelle, puisque le moment de l'exil va entraîner une autre rupture, puisqu'il y a plusieurs ruptures, il y a la mort de Béatrice, mais il y a l'exil. Et l'exil entraîne de nouvelles thématiques et un changement de problématique finalement.
Et peut-être le traumatisme aussi de la guerre, parce que on ne l'a pas assez dit dans l'émission biographique hier, mais enfin, c'est quand même quelqu'un, Dante, qui est allé sur les champs de bataille. Oui. Peut-être que ça a changé à un moment donné sa vision des choses.
Alors probablement, notamment sur la confrontation, finalement, à la difficulté, à l'horreur, au mal réel. C'est pas juste un poète florentin enfermé dans sa tour d'ivoire, c'est quelqu'un qui a véritablement eu une vie active. Et on oublie un peu ce Dante homme d'action. Souvent, on imagine le poète un petit peu déréalisé, poétisant l'amour et Béatrice, la perfection, mais c'est quelqu'un qui a eu une activité politique extrêmement importante, très engagé à Florence dans la vie politique, ce qui a d'ailleurs causé l'exil, parce qu'on le menace du bûcher, donc il est obligé de s'enfuir. Et donc cet engagement, ce Dante très politique, est quelque chose que parfois on a pu laisser de côté et au profit du Dante purement littéraire.
Ouais. Or c'est très présent dans l'œuvre, cet aspect politique, et dans toutes les déclinaisons finalement de l'œuvre de Dante.
Alors absolument, puisque l'œuvre de Dante va se centrer dans un climat qui est assez particulier, qui est celui des communes italiennes, qui sont un système de gouvernement très particulier, puisque c'est un système souvent électif, c'est un système dans lequel il y a une participation des citoyens à la vie publique, donc il y a un véritable engagement de toute une série de personnes, notamment des gens qui sont ce que le Goff appelait ces intellectuels qui naissent véritablement à cette époque-là, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des clercs, qui sont des laïcs, mais qui vont avoir une culture leur permettant de lire, d'écrire et d'intervenir dans la cité. Et Florence, à l'époque, est un endroit dans lequel la vie politique est extrêmement importante. Et donc il y a un Dante politique qui est vraiment majeur, outre la monarchia qui est son traité politique pro-impérial, qui est son œuvre majeure en philosophie politique. Il y a énormément de politique dans le Convivio, par exemple, mais aussi des thématiques qu'on retrouve dans la Divine Comédie et qui ne sont pas du tout des thématiques secondaires, mais qui, au contraire, sont des thématiques centrales et qui, là aussi, pour quelqu'un qui est ambassadeur, qui est toujours très proche des puissants et de la vie politique, qui est dans une querelle contre le pape extrêmement importante, il y a des enjeux qui sont véritablement centraux dans cette œuvre et qu'il ne faudrait pas laisser de côté.
Donc vous nous avez dit pourquoi il fallait quand même lire séparément les différentes œuvres. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on pourrait aussi les lire ensemble ? Est-ce que un tel de ces ouvrages en prépare un autre ? Est-ce que finalement la Divine Comédie vient couronner tout un processus qui finalement est comme ça, qui conduit au fond vers la Divine Comédie ?
Alors, disons que les étapes sont différentes, mais les problèmes restent les mêmes. C'est-à-dire que, dès la Vita Nova, par exemple, le problème de l'amour est un problème absolument central. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être une thématique continue, et la thématique du voyage aussi. L'exil va amener une autre problématique, c'est-à-dire celle du voyage contraint, celle de la disparition finalement de la proximité de Florence, etc. Mais il y a déjà une thématique du voyage à l'intérieur de la Vita Nova et dans les premières œuvres. Donc en réalité, on retrouve les mêmes thématiques, simplement c'est un Dante qui a mûri, qui a de nouvelles approches pour les mêmes problèmes et qui donc va les penser d'une manière, sinon complètement différente, du moins passer par le prisme de ces différentes expériences.
Donc c'est intéressant de les lire aussi avec ça en tête.
Oui, c'est-à-dire que Dante se lit pas seulement. Dante est un auteur qui se relit beaucoup. C'est-à-dire que une fois qu'on a terminé, il faut recommencer au départ parce qu'à ce moment-là, eh bien, on redécouvre dans la première œuvre quelque chose qui finalement nous a été appris par la dernière œuvre.
Oui. Bah, tout est cyclique de toute façon.
Tout est cyclique chez lui, donc c'est cette espèce d'éternel retour, mais pas du même. Il y a une thématique très classique à l'époque qui vient du pseudonyme de l'Aréopage, qui est la thématique d'une élévation spirituelle qui serait un petit peu comme une spirale qu'on retrouve dans la spirale du purgatoire, par exemple, avec l'idée qu'on revient, mais toujours à un étage supérieur. C'est-à-dire que c'est une spirale, c'est un mouvement hélicoïdal qui est celui de l'élévation de l'âme. Et donc cet éternel retour est une élévation d'une vie sans fin.
Dante, lorsqu'il a commencé à écrire, il a écrit sur Béatrice. Et on s'aperçoit aussi, en étant ici, qu'il y a vraiment eu une fausse querelle. Ça aide ici à comprendre la fausse querelle sur Béatrice qui a tellement passionné et divisé la critique dantesque pendant des siècles. C'est-à-dire, est-ce que Béatrice, c'était l'idée de la théologie? Est-ce que c'était une image allégorique? Ou est-ce que c'était simplement, banalement, la petite Bice Portinari qui habitait justement à la porte du poète? Eh bien, si l'on vit un peu de plus près cet espace chargé, d'ailleurs cet espace très familier en même temps et très symbolique, qui est chargé de rapports et d'intensité, eh bien, on comprend très bien que pour Dante, c'était évidemment les deux à la fois. Et l'idée de même d'écrire la Divine Comédie est venue, Dante le décrit lui-même dans la Vita Nuova, de la décision de dire d'elle ce qui n'a jamais été dit d'aucune. C'est-à-dire, c'est toujours à partir de Béatrice, à partir de Bice Portinari, que se développe l'idée de la louange suprême, qui était aussi l'idée de la louange, c'était une idée du Dolce Stil Nuovo, c'était une idée de l'amour courtois, qui tout d'un coup, chez Dante, prend des proportions qu'elle n'avait jamais prises.
La Compagnie des œuvres sur France Culture, on entendait à l'instant Jacqueline Risset qui expliquait que finalement Dante parle d'une femme, mais il parle aussi de la théologie. En plus, il le fait d'une manière qui est réflexive sur l'écriture elle-même. Il évoque tous les grands sujets humains. J'ai envie de vous poser une question très simple et à la fois un peu difficile. De quoi parle Dante? Quel est le sujet de Dante? Ou quels sont ses sujets?
Alors, c'est effectivement une question difficile parce qu'il y a beaucoup de sujets. On pourrait dire que le sujet de Dante, c'est le sujet. C'est-à-dire que c'est l'individu, c'est les vicissitudes de l'existence, c'est la confrontation finalement de l'individu à la vie et la tentative pour essayer de sublimer une vie qui est reçue et qui doit être conquise justement par différentes recherches. Alors toutes les thématiques interviennent parce que l'amour, la question politique, etc. font toutes partie d'une constitution du sujet. C'est un jeu qui traverse l'ensemble de l'œuvre.
Est-ce que c'est un guide de vie ?
Je suis toujours assez sceptique par rapport au guide de vie parce que un guide de vie, disons, Dante ne se prétend pas être un modèle. Ce qu'il montre simplement, il se présente comme, il dit toujours, je suis le legno, enfin il dit dans la Divine Comédie, je suis le legno che cantando varca, le bateau qui vogue en chantant. Il dit, j'ouvre un sillage, mais suivez-moi. Mais l'idée, ce n'est pas d'être un modèle. L'idée, c'est finalement de voir comment lui, face à des problèmes, à des difficultés, il a eu une vie assez difficile quand même, avec beaucoup de crises, etc. Eh bien, comment on peut essayer de les surmonter et comment on parvient justement à s'extraire finalement d'une espèce d'abandon, une volonté de tout laisser de côté et comment on peut essayer de se transhumaniser, pour prendre le mot du paradis.
Il partage son expérience.
Il partage son expérience, c'est-à-dire que c'est vraiment une expérience de vie et il nous montre, c'est pour ça qu'elle nous parle encore aujourd'hui, c'est-à-dire que les difficultés qu'il rencontre sont des difficultés que finalement nous pouvons encore aujourd'hui rencontrer, qui ne sont pas spécialement des difficultés du XIIIe ou du début du XIVe siècle. C'est le drame amoureux, l'angoisse de la mort, le problème disons, de l'idéal, sont des thématiques finalement très contemporaines.
Donc il fait un trajet, un pèlerinage, sans doute diriez-vous, Didier Ottaviani, une progression sur un chemin. Mais ce chemin, d'où part-il et où nous emmène-t-il ?
Alors, ce chemin, finalement, c'est un chemin qui est censé nous amener justement vers la plus haute contemplation et vers le dépassement de soi. Disons, on pourrait dire que le but ultime du chemin, ce serait ce trasumanar dont je viens de parler, la transhumanisation, le dépassement de soi.
Est-ce que ce serait la morale aussi ? Ou est-ce que c'est un peu différent ?
Ce sera un peu différent parce que le trasumanar est quelque chose d'extrêmement compliqué. La critique dantesque depuis des siècles bute sur cette question et revient toujours à cette question.
Donc on peut en dire un mot. C'est un mot utilisé par Dante sans qu'on comprenne exactement ce qu'il voulait dire par là.
C'est-à-dire qu'il y a des traditions auxquelles on peut le rattacher. La transhumanisation, on peut imaginer que c'est une voie mystique. Par exemple, il y a beaucoup d'interprétations mystiques. Il dit que le trasumanar ne peut pas se dire par le verbe. Donc il y a toute une idée de la limite du langage, qui est une thématique théologique et mystique assez classique à l'époque. Mais il y a aussi la question de l'œuvre, qui moi m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire se réaliser en écrivant, c'est-à-dire faire quelque chose, faire de sa vie une œuvre, justement, qui était finalement l'enjeu fondamental de Dante, laisser, constituer ce jeu, mais comme un jeu durable. Et c'est ça qu'est l'écriture, c'est ça qu'est la constitution véritable de la poésie dantesque, c'est-à-dire de faire une œuvre qui soit finalement l'expression de soi, parce que de Dante, il ne reste que ça, finalement.
Donc le transhumanar, c'est une espèce d'extase et une réalisation totale de son désir, une réalisation totale d'être soi-même.
Est-ce que voilà, c'est être soi-même dans le dépassement de soi. Voilà, si on veut trouver une définition qui vaut ce qu'elle vaut, et je ne suis pas sûr que tout le monde serait d'accord avec une telle définition, qui est peut-être un petit peu trop courte pour dire tout ce que ça peut être, mais c'est quelque chose qui invite au dépassement. Donc il vaut mieux le prendre comme une interrogation plutôt que comme un but qu'il faudrait tenter de réaliser. C'est-à-dire il faut toujours chercher à se transhumaniser, à dépasser l'humain, pour aller vers la création. Dante fait partie de ces auteurs qui sont à l'orée de la Renaissance, c'est-à-dire qu'on est dans des thématiques où la création, qui était réservée à Dieu, le mot création, par exemple Thomas d'Aquin dit très bien que on ne peut parler de création qu'à propos de Dieu, on ne va pas parler de créateur pour un artiste, c'est un producteur. Donc l'idée de la création, c'est produire quelque chose de nouveau. Et c'est ça, être un sujet, c'est faire quelque chose qui n'a jamais été fait. On va chanter Béatrice, comme le disait si bien Jacqueline Risset, à la manière dont personne ne l'avait fait avant. Et c'est ça qui va poser le sujet et qui va dépasser l'humain tout en étant fondamentalement humain.
Et cette interrogation, elle est là au fond, dès le départ, dès son premier ouvrage, La Vita Nova.
Je me sentis éveiller dans le cœur un esprit amoureux qui dormait. Et puis je vis venir de loin amour, si joyeux qu'à peine je le connaissais, disant « Or pense pourtant à me faire honneur », et chacune de ses paroles riait. Et peu demeurant avec moi mon Seigneur, regardant du côté d'où il entrait, je vis Madonna Navanna et Madonna Bice venir vers le lieu où j'étais, l'une après l'autre, merveille. Et ainsi que l'esprit me le redit, amour me dit, celle-ci est primavera, et celle-là, anon, amour. Tant elle me ressemble.
La Vita Nova, donc, avec cet extrait lu par François Chaumette. C'est donc la première œuvre de Dante. Il l'aurait commencé l'année de ses 18 ans et y aurait travaillé durant une dizaine d'années. C'est pas tout à fait anodin qu'il ait écrit ce texte si jeune, parce que il est sans doute traversé de pulsions qui sont les pulsions de la jeunesse. Il est moins probablement dans une réflexivité qui sera celle qu'il aura plus tard dans les autres œuvres. Est-ce que ça ne se ressent pas ça un petit peu, Didier Ottaviani?
Alors, disons qu'il y a déjà une réflexivité qui est assez présente, parce que la Vita Nova a un statut un peu particulier, c'est le livre de la mémoire, il y a le livre de la mémoire, c'est comme ça qu'elle ouvre, elle s'ouvre, et donc c'est déjà un retour, c'est-à-dire que tous les événements qui sont présentés dans la Vita Nova ont déjà eu lieu, puisqu'il s'agit de reprendre ces événements, et donc de re-réfléchir, c'est-à-dire qu'il faut, en fait, il y a une expression, finalement, de cette espèce de d'élan de la jeunesse. Mais il y a aussi une réflexion de cet élan de la jeunesse, puisqu'il y a une réflexion sur des événements qu'il n'a pas totalement compris au moment où il lui arrivait.
Mais disons que l'amour courtois, il y a sans doute davantage sa place que dans les autres œuvres.
Alors, c'est une œuvre fondamentalement, à mon avis, courtoise. C'est-à-dire qu'elle va utiliser un petit peu les canons classiques du Trobard, de la poésie courtoise, qui viennent directement de cette jeunesse poétique. C'est-à-dire que c'est un Dante fasciné par les poètes provençaux, par Arnaud Daniel, par tous ces poètes qui vont chanter l'amour. Donc un amour un petit peu terrestre, oui. Un amour condamné à l'époque, puisque le traité de l'amour courtois d'André de Chapelain était condamné en 1277 par Étienne Tempier, l'archevêque de Paris, dans les 219 condamnations de mars 77. Donc l'amour courtois, c'est un problème parce que ça parle d'amour, donc on est sur le même mot et sur la même thématique que les théologiens et on dit des choses qui sont très terrestres. Donc il y a une sorte de conflit des poètes et des théologiens sur cette question-là, et Dante est vraiment du côté des poètes.
Ouais. Alors justement, ça ressemble à quoi ? Est-ce qu'il y a une narration ? C'est un assemblage de poèmes ? Enfin, qu'est-ce
alors,
que...
le modèle est un modèle de poèmes avec des commentaires de poèmes. Donc c'est le modèle, en fait, de la Consolation de la philosophie de Boès, qui est un texte que Dante, qui fascine complètement Dante, qui est un très grand texte du IVe siècle, donc la Consolation de la philosophie, qui est, selon la même structure, des poèmes, parfois assez obscurs, et des commentaires, qui sont pas forcément des commentaires des poèmes, dans le cas de Boès, alors que Dante essaye de commenter un petit peu ce qu'il y a dans les poèmes. Donc c'est un peu ça le modèle, mais Dante en fait quelque chose qui est complètement singulier, parce que...
Qui est d'avant-garde, pour l'époque ?
Oui, parce que on a finalement de la poésie en prose. Alors c'est pas quelque chose qui est forcément étonnant par rapport à certains textes de troubadours, etc., qui pouvaient déjà ressembler à ce genre d'écriture. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très spécifique et qui est complètement différent, par exemple, de ce qu'il fait dans les rimes, où on a une poésie. Alors très compliqué aussi, mais de facture beaucoup plus classique. Là, la Vita Nova est vraiment une œuvre qui pose un genre complètement nouveau. La nouveauté n'est pas seulement celle de la vie de Dante, c'est aussi la nouveauté de cette œuvre, qui est une œuvre assez compliquée, de par les thématiques et de par le fait que il est justement dans ce moment d'amour courtois, et en même temps il voit les limites de cet amour courtois, puisqu'il sait à la fin qu'il doit chanter Béatrice autrement et qu'il ne doit pas continuer la Vita Nova, il doit passer à autre chose. Il doit commencer des études de philosophie pour pouvoir la chanter à plus haut sens.
Donc il y a déjà Béatrice. C'est ça que ça raconte, au fond.
Il y a déjà Béatrice.
C'est l'amour pour Béatrice.
Bien sûr, il y a toujours Béatrice, de toute manière. Ça, dans toutes les œuvres, Béatrice est là. Ce n'est pas forcément la même personne, parce qu'il y a plein de Béatrice. En fait, c'est ça qui est sans doute le plus difficile à cerner. Jacqueline Risset en parlait un petit peu, mais il y a Bitche Portinari. Donc ça, c'est la vraie Béatrice. Mais il y a la Béatrice de la Vita Nova. La Béatrice de la Vita Nova est déjà symbolique, puisque dans l'extrait qui a été lu, elle est dite être amour. Donc elle est une figure qui peut être une figure de Jésus-Christ, qui peut être une figure déjà semi-théologique, mais qui est aussi la figure de la dame courtoise. Donc elle a déjà beaucoup d'aspects complètement différents. Mais par la suite, on va retrouver Béatrice, qui sera une figure de la dame philosophie. Aussi, Boès donnait à la philosophie une figure féminine, qui vient la visiter dans sa prison. Et puis, il y a la Béatrice de la Divine Comédie, qui est
encore tout autre.
Qui est encore tout autre, parce que c'est une Béatrice. Alors, est-ce que c'est simplement la théologie, sous prétexte qu'elle est au paradis, ou est-ce que c'est toutes les Béatrices réunifiées dans une seule figure ?
Et du coup, on se demande si c'est pas un peu la Vita Nova, un carnet préparatoire, puisque c'est le premier des ouvrages, à la Divine Comédie, par exemple.
Oui, c'est-à-dire que c'est une sorte de matrice. C'est une matrice dans laquelle il y a une première évocation des thèmes, l'amour, la rupture, le problème de la mort, puisque quand Béatrice lui refuse son salut, il devient pâle comme la mort. Donc il y a toute une idée aussi de la métamorphose, puisqu'il se transfigure, il va devenir pâle comme la mort, il y a un changement de couleur, des thématiques qu'on va retrouver dans la Divine Comédie. Donc il y a toute une série, l'idée de la métamorphose, l'idée de la langue aussi, de la difficulté de et la peur aussi de la puissance de la langue, puisque il va dire qu'il a peur de, en chantant ses poèmes, de faire s'enamourer les gens. Enfin, il a quasiment une puissance quasi démiurgique.
Il a peur de sa propre force en utilisant certains mots.
Oui, il a une peur de l'amour.
Que ça pourrait avoir.
C'est-à-dire que ça le déborde et donc il n'a peut-être pas encore la carrure pour assumer un petit peu sa nouveauté.
Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Alors, vous l'avez dit, Didier Ottaviani, Dante, à l'époque de la Vita Nova, est encore fasciné par les chants courtois, mais il veut faire naître une parole nouvelle. Et pour faire naître cette parole nouvelle, eh bien, il faut conquérir une langue, il faut faire un long détour par la connaissance philosophique, et il y a toute cette espèce de création d'une langue qui petit à petit va être aussi l'un des aspects de l'apport de Dante. Comment chercher justement cette langue nouvelle? Comment la moderniser, la modifier?
Alors, il y a, disons, plusieurs dimensions dans cette quête de la langue. D'une part, il y a une recherche de ce que peut être le parler vulgaire. Parce qu'il y a une réflexion très importante de Dante sur la langue, dans la mesure où, pour lui, bien sûr, il y a une prédominance du latin. Puisqu'on écrit en latin, notamment quand on va faire de la philosophie, mais on écrit de la poésie en langue vulgaire. Donc cette langue vulgaire, au sens, non pas qu'elle est de la vulgarité, mais au sens où c'est le nom qu'on donne à la langue vernaculaire, voilà, c'est quelque chose qu'il faut travailler, puisqu'il faut lui donner justement la dignité du latin. Le latin est une langue morte, c'est une langue qui ne va pas permettre la nouveauté. Dans le latin, on va pouvoir faire de la grande rhétorique, on peut faire de la philosophie, parce que la philosophie finalement, c'est la philosophia perennis, elle est éternelle, donc on peut la laisser en latin, mais si on veut faire quelque chose de nouveau, il va falloir de nouveaux outils. Donc ces nouveaux outils supposent une nouvelle langue. Alors comment faire une langue dans un pays qui est complètement éclaté, qui a plusieurs langues? Ce qu'on appelle l'italien, effectivement, vous le disiez au tout début, n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a des parlers florentins, vénitiens, mais qui sont finalement assez différents. Et donc Dante va avoir une espèce de quête d'abord de voir ce que font les poètes et comment eux-mêmes font la langue. Parce que c'est une idée qui est déjà une idée chez les troubadours. Les troubadours revendiquaient l'idée qu'ils étaient des trouvères, c'est-à-dire des trouveurs de la langue. Et donc l'idée, c'était de travailler la langue, de la ciseler. Il y a beaucoup de poèmes des troubadours sur le fait qu'ils sont comme des orfèvres qui vont ciseler les mots pour créer de nouveaux joyaux qui sont des nouvelles expressions, des nouveaux mots. Donc Dante va être très intéressé par cette attitude poétique qui va permettre justement de créer une manière de parler différente. Mais c'est quelque chose qui a aussi un fond politique fondamental. C'est-à-dire que, pour lui, si l'on veut faire l'unité de l'Italie, et c'est quelque chose qui, véritablement, pour Dante, est au cœur de sa pensée, eh bien, il va falloir faire une unité de la langue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un pays unique avec une langue divisée. Et donc, il va falloir chercher comment on va pouvoir créer ce vulgaire illustre, c'est-à-dire une langue vulgaire, mais qui ait les dimensions de noblesse que pouvaient avoir des langues comme le latin ou le grec.
Et pourquoi souhaite-t-il unifier l'Italie dès cette époque-là?
Parce que pour lui, le problème de l'Italie, c'est la division. C'est-à-dire qu'il y a un idéal fondamental qu'on va retrouver dans la monarchia, qui est l'idéal de l'Empire, c'est-à-dire l'idée du Regnum Italicum. Il y a l'idée selon laquelle le Regnum Italicum, le règne d'Italie, en fait, est l'Empire romain, qui était l'Empire universel, qui unifiait tous les hommes, et que cet empire est divisé. Et qu'il ne pourra y avoir de bonheur de l'humanité que dans la réunification de l'unité de tous les hommes.
Et avec donc l'idée que Florence doit être au centre de cette réunification.
Alors, disons que progressivement, c'est Florence et Dante qui doivent être au centre de cette réunification, parce qu'ils voyagent dans toute l'Italie, va voir ce que font les poètes, et finalement, pour le dire un peu vite, ils sont pas si bons que ça. C'est-à-dire qu'ils font des choses, mais on peut faire mieux. Donc il a une première idée, qui est l'idée de réunir une sorte de congrégation des poètes qui referait l'unité de la langue, chacun apportant ses trouvailles, de leur parler, et de faire une sorte de communauté des poètes. Mais bon, très rapidement, il est un peu tout seul, Dante a toujours été très orgueilleux.
Il faut soit le suivre, soit...
C'est-à-dire qu'il faut surtout
le suivre.
C'est ça que lui prophétise... Cacciaguida, son ancêtre qu'il rencontre au paradis, il lui dira, parce qu'il y a beaucoup de partis politiques, il dira, tu finiras par faire un parti à toi tout seul. Mmh. Et effectivement, c'est ce Dante solitaire qui cherche une solution, mais cette solution, il va la trouver dans la langue, c'est-à-dire que pour lui, l'unité passera par une unité linguistique, par la possibilité, justement, parce que pour lui, la langue, c'est ce qu'il appelle le parlar materno, c'est-à-dire qu'on est dans une langue et notre esprit est forgé dans cette langue. Et que donc, si on veut faire des Italiens qui sont forgés dans une même unité, il va falloir qu'ils aient la même langue. Mmh. Et donc c'est ça qui fait un enjeu essentiel de sa quête.
Alors il appelle cette recherche de la langue la recherche de la panthère parfumée, si j'ai bien lu. Qu'est-ce que ça veut dire la panthère parfumée ?
Bien, c'est quelqu'un qui se cache, enfin c'est un être qui se cache, mais dont il reste une trace de parfum. Donc il parcourt l'Italie et explique qu'il a senti ce parfum. Mais il faut toujours trouver la panthère. Donc, et souvent, il ne reste que le parfum. Donc, c'est l'idée d'une chasse à la langue, qui est quelque chose qui ne se laisse pas facilement capturer et qui est dans cette thématique finalement d'une quête perpétuelle. C'est un peu un Graal, cette panthère parfumée, dont on ne va avoir que des manifestations épisodiques, mais il est très difficile de la réaliser et de la trouver.
Est-ce qu'il est quand même parvenu à créer cette langue italienne, à l'unifier et au fond, même en inventant un certain nombre de termes, à lui donner une réalité?
Alors, disons que dans la mesure où il aura une très grande célébrité et que ses œuvres seront beaucoup lues, il y a quand même une certaine unification, ce qui fait que alors, savoir donner des paternités au niveau de l'histoire est toujours un peu compliqué, mais disons que l'italien contemporain est quand même globalement du florentin. C'est peut-être pas non plus quelque chose d'innocent.
Donc, parce que les Italiens probablement lisent relativement bien Dante dans le texte d'origine, peut-être sans doute davantage que des Français liraient des textes de Français de la même époque.
Alors ça dépend. Moi j'étais confronté à des élèves italiens justement, pour lesquels certains mots me semblaient évidents, parce que je suis corse et que ma langue en fait c'est du génois un peu sédimenté du 14e, 15e siècle. Donc finalement elle est assez proche de l'italien de Dante. Voilà, il y a quelques siècles d'écart. Mais l'italien contemporain, il y a beaucoup de choses qui sont très difficiles en italien contemporain par rapport à du florentin. La langue de Dante est quand même assez étrange. Je sais qu'il y a des mots qu'on utilise dans les villages chez nous et qui, pour mes étudiants, même venus d'Italie, me disaient « on ne sait pas ce que ça veut dire ». Et je leur disais
Donc c'est pas si
moi,
simple,
je l'utilise même. Tout le temps. Ils me disent « oui, mais vous, on a l'impression que vous venez du Moyen-Âge
». Ça vous a fait plaisir.
Donc voilà. Oui, c'est vrai que, cet italien est un petit peu passé, mais là où Dante va apporter quelque chose, c'est qu'il va vraiment créer une langue, c'est-à-dire notamment au paradis. C'est-à-dire que la langue du paradis est une langue très rythmique, mais avec beaucoup de néologismes. Il va inventer beaucoup de mots.
Le Trasumanar, par exemple.
Le Trasumanar, le Indovar, l'idée que Dieu, l'ensemble des choses, le Dov, et c'est le où. C'est pas vraiment le lieu, donc Indovar, et c'est se mettre dans le où, alors pour expliquer comment les choses se mettent, peuvent rentrer dans Dieu. Donc il invente un mot, parce que on peut pas dire comment toutes les choses retournent vers l'un. Donc il y a plein de mots qui vont devenir même des concepts, c'est-à-dire qu'au niveau philosophique, c'était très intéressant de voir la création de quelque chose qui est une manière de dire ce qui ne pouvait pas être dit auparavant, parce qu'il n'y avait pas de mots.
Il a pratiqué d'une façon, me semble-t-il, extrêmement vigoureuse et impressionnante pour une conscience moderne, ce qu'on pourrait appeler une véritable conscience sémantique de l'œuvre. L'œuvre est conçue comme un système déclaré de signification, non pas d'ailleurs au sens vague de symbole, n'est-ce pas, mais au sens beaucoup plus moderne d'articulation, de découpage, si vous voulez. Et c'est là, cette réalité sémantique de l'œuvre a, chez Dante, et c'est ça qui est important, un aspect véritablement déclaré, affiché, Au fond, l'auteur a le droit de faire la théorie sémantique de son œuvre et même de donner cette œuvre à travers les deux langages, n'est-ce pas, ce qu'on appelle aujourd'hui le langage objet, qui serait par exemple celui des sonnets de la Vita Nuova, et le métalangage, c'est-à-dire le langage dont on se sert pour parler de ce premier langage.
Compagnie des œuvres avec Didier Ottaviani. Vous nous parlez de Dante et à l'instant on entendait cette archive de Roland Barthes. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? C'est pas évident ce que dit Roland Barthes ici. Disons qu'on peut peut-être résumer les choses en disant qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension des textes de Dante, que les textes réfléchissent eux-mêmes. Est-ce qu'on peut le présenter un peu comme ça ou comment vous le présenteriez-vous?
Alors, bon. Je ne prétendrai pas être Roland Barthes, donc je lui laisserai...
Analyser Roland Barthes, déjà,
voilà,
c'est bien.
Déjà, c'est déjà compliqué. Mais au niveau de cette polysémie de l'œuvre et des différents niveaux de discours, effectivement, Dante le revendique lui-même. On a des textes comme la lettre à Cangrande de la Scala, qui était son protecteur, où il explique qu'il ne faut pas lire son œuvre comme si elle avait un seul sens. Donc il va typiquement s'articuler sur quelque chose qui... peut-être Roland Barthes peut l'expliquer par le métalangage, etc., mais qui à l'époque relève de l'herméneutique biblique, c'est-à-dire que la Bible a plusieurs sens, il y a un sens littéral, mais il y a un sens moral, donc il y a toute une série de sens qui viennent se raccrocher sur le texte, et c'est quelque chose qui est très classique dans l'œuvre théologique, le commentaire, notamment si on prend les grands commentaires, le commentaire de la Genèse par saint Augustin, par exemple, il va essayer d'expliquer les différents niveaux de discours, quel est le sens des six jours, par exemple, que ce n'est pas du tout le sens de jours, et donc il y a un sens littéral, mais il y a des sens cachés qu'il faut réussir à trouver. Donc Dante dit explicitement qu'il a placé tous ses sens dans son œuvre, et donc que l'œuvre est à de multiples entrées et de multiples sens. Alors il ne nous laisse pas les clés. D'où la difficulté de l'étude dantesque.
D'où le plaisir de l'étude dantesque, vous voulez dire.
D'où le plaisir, d'où le fait que ça dure depuis des siècles, et que finalement, eh bien, il va nous donner, il y a beaucoup de symboles chez Dante qui sont très obscurs, qui ne sont pas du tout des symboles de l'époque, qui sont des structures symboliques qu'il va créer sans nous donner les références exactes de ces structures. Il y a des passages qui sont complètement incompréhensibles. Déjà parce qu'ils sont dans une langue incompréhensible, parce qu'il y a des mots en enfer, enfin, il y a des phrases en enfer, notamment de Nemrod, puisqu'on ne comprend plus rien à ce qu'il raconte après la chute de Babel, et la phrase ne veut rien dire. Donc on essaye de comprendre ce que ça veut dire, mais est-ce que ça veut dire quelque chose? Quel peut être le sens caché? Donc il y a toute une frange de l'étude dantesque ésotérique aussi, parce que évidemment l'écriture ésotérique est quelque chose là aussi qui à l'époque est quelque chose qui fait partie de l'ambiance culturelle de son temps, c'est-à-dire que il y a beaucoup de mystères, on se cache, il y a des alchimistes, donc on va écrire tout en se cachant aussi. Donc il y a plusieurs structures qui viennent se superposer, celle d'une rhétorique assez classique, celle d'une symbolique, d'un ésotérisme, et toute la question de l'herméneutique biblique et du fait que tout texte doit avoir plusieurs sens. Et que finalement, c'est peut-être au lecteur de trouver le sens en essayant de fermer le sens, parce que le problème c'est qu'on ne peut pas dire n'importe quoi non plus, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il ne pouvait pas penser à son époque. Donc il faut essayer de fermer un peu cette espèce de nuage du sens.
On a le droit de relire Dante avec toutes les théories postérieures et les théories
d'aujourd'hui. On a tous les droits, je veux dire, mais quand on fait de l'histoire de la pensée ou qu'on essaye de voir quel peut être le sens de son œuvre, on essaye de diminuer, c'est impossible, mais autant que faire se peut, notre point de vue contemporain pour essayer de voir comment on pouvait penser à Florence à cette époque. Donc c'est ça qui permet de limiter le nuage de l'interprétation, mais ça reste un nuage, il y a beaucoup d'interprétations divergentes dans ce nuage.
Donc il est presque un peu linguiste, comme Roland Barthes, finalement, Dante, et notamment quand il écrit son traité de l'éloquence en langue vulgaire, dans lequel finalement il plaide pour voilà une langue qui serait la langue italienne et qui serait, comme vous le disiez, une langue aussi belle que le latin. Alors il parle de différents styles, par exemple, dans ce traité. Il explique que le style peut être soit fade, soit sobrement savoureux, soit savoureux et orné. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette autre œuvre, Didier Ottaviani, pour qu'on essaie de comprendre un petit peu le projet de ce texte-là, de la part de Dante?
Alors, il essaye effectivement de faire une stylistique, il essaye de voir un petit peu quelles sont les différentes manières de parler, les manières classiques, essayer de faire une organisation à la fois des styles de langage, mais aussi des mots. C'est-à-dire, comment pouvoir dire les choses avec certaines sonorités et certains mots, et c'est des choses qu'il va utiliser. Là où on peut dire qu'il y a une forme de linguistique, c'est qu'il est véritablement conscient qu'il va falloir réussir à comprendre que il y a les mots, il y a les structures dans lesquelles ces mots sont formés, et que ces structures vont conduire à des systèmes émotifs, puisque le but, c'est de réaliser une émotion. Donc comment faire que la langue puisse faire passer une émotion et que le lecteur, eh bien, puisse être touché par ce que va dire la langue. Et c'est par exemple ce qu'il va faire, il y a des passages très intéressants que j'aime beaucoup, avec l'idée des mots « rêche » et des mots qui sont « hirsutes » et des mots bien peignés. Moi j'aime beaucoup ce passage, parce qu'il y a toute une...
Il y a aussi les mots « puéril », »,« féminin », »,« mâle », »,« forestier », »,« urbain »,« chevelu ».
Voilà, donc cette histoire de cheveux, par exemple, les mots « hirsutes » sont des mots qui des fois ne sont pas utilisés en poésie, parce que c'est des mots qui sont rugueux, qui font mal à l'oreille. Mais il y a des cas où on peut les utiliser. Par exemple, c'est assez intéressant de voir qu'en enfer, dans certains vers, il y a des onomatopées. Il y a des cracks, il y a des... c'est des onomatopées, c'est pas vraiment des mots. Mais par contre, ça donne des mots rugueux qui permettent de comprendre cet univers, qui est un univers justement aride, qui nous écorche. Et l'oreille doit s'écorcher en entendant ces vers pour qu'on comprenne ces écorchés ou ces passages de l'enfer. Par contre, il faut que ce soit beaucoup plus fluide si on est au paradis. D'où d'autres mots qui vont être beaucoup plus dans cette espèce de flux.
Donc Dante, c'est une traversée de l'écriture.
C'est complètement une traversée de l'écriture.
C'est une traversée aussi de la pensée, parce qu'il y a un autre ouvrage de Dante qui s'appelle Le Banquet Il Convivio, qui est là, un banquet philosophique. Je vous propose d'en écouter d'abord un extrait, lui ici, par Michel Bouquet.
Je dis que madame est cette dame de l'intellect qui a nom philosophie. Nous disons philos, comme nous dirions amour, et sophos, comme nous dirions sage. Ainsi peut-on voir que philosophie n'est pas autre chose qu'amistance envers sagesse ou envers savoir. Et de même que la vraie amitié des hommes entre eux est que chacun aime chacun tout entier. Le vrai philosophe aime chaque partie de la sagesse, et la sagesse chaque partie du philosophe, en tant qu'elle leur amène tout à elle, et ne lui laisse porter nulle pensée sur autre chose. Je dis que Dieu, qui tout embrasse dans son entente, ne voit tant gentille chose comme il voit quand il mire là où est cette philosophie. Il la voit très parfaitement en lui et dans son essence, car si philosophie est un amoureux usage de la sagesse, celui-ci est au plus haut point en Dieu, parce qu'en lui est souveraine sagesse et souverain amour et souverain acte. Ah donc, la divine philosophie est part de la divine essence et elle est en lui, par manière parfaite et véritable, comme par éternel mariage.
Quel est ce banquet, Didier Ottaviani, auquel Dante nous convie, alors même qu'il est en exil ?
Alors, le banquet, le convivio en italien, donc déjà est un ouvrage écrit en vernaculaire. Alors, dans lequel il se justifie dès le début de l'avoir écrit, alors qu'un ouvrage de philosophie se doit d'être en latin.
Donc il met en pratique ses idées sur la langue vulgaire.
Oui, parce qu'il essaie d'expliquer pourquoi. Donc il y a un très long passage au début où il se justifie d'écrire en langue vulgaire, où il va dire d'abord, il ne veut pas prétendre avoir le savoir, parce qu'il fait une espèce de somme, comme les grandes sommes de son temps, à l'image de ce qu'a pu faire son maître Brunetto Latini dans son livre du Trésor, donc une somme des connaissances, qui ne sera pas finie d'ailleurs, ça reste inachevé. Mais il dit que lui, alors il a toute une série de métaphores. C'est un texte extrêmement compliqué. Le convivio est assez long et parfois sous-étudié. Alors pas par la critique dantesque, mais quand on étudie Dante, mm-hmm. on le laisse parfois un peu de côté, alors que c'est vraiment une matrice là aussi essentielle pour sa pensée. Et il va dire, il a la métaphore du pain des anges, c'est-à-dire que la philosophie, la sagesse, le savoir, c'est le pain des anges, une sorte de manne céleste. Et il y a des gens attablés à la table du pain des anges. Et lui, il n'y est pas. Il est sous la table, donc il ne ramasse que des miettes.
Mais il veut les miettes philosophiques.
Les miettes philosophiques, exactement, comme dirait Kierkegaard. Mais disons que ces miettes, il ne veut pas les garder pour lui. Donc il veut les distribuer au plus grand nombre. On retrouve le projet un petit peu politique, c'est-à-dire on doit distribuer. Et donc cette distribution, il doit la faire en langue vulgaire, parce que c'est dans le vulgaire qu'il pourra toucher des gens qui ne connaissent pas le latin et qui ont le droit de manger autre chose, comme il le dit, que de l'herbe et des glands.
Il dit quand même que son pain est moins noble, puisque son banquet est donc écrit en italien et non en latin. Il est fait d'orge et non de froment.
Voilà. Il y a toute une métaphore du banquet.
Mais là, c'est politique aussi, parce qu'il s'agit de permettre au plus grand nombre de lire ces miettes de philosophie.
Bien sûr, puisque la philosophie, finalement, est dans des cénacles extrêmement réservés, qui sont ceux qui entendent le latin, déjà, donc c'est pas tout le monde. Ensuite, c'est quelque chose qui, finalement, ne sort pas tellement des universités. Il n'y a pas véritablement d'enseignement philosophique, et on voit apparaître cette nouvelle, entre guillemets, classe sociale, qui sont ces hommes laïcs qui ne sont pas forcément dans le parcours universitaire et qui sont friands de philosophie. Et il n'y a pas, ou très peu, de philosophie en vernaculaire. Alors, c'est une idée qu'on avait déjà à l'époque de Courtoise, puisque des gens comme Guido Cavalcanti, qui était son meilleur ami, a écrit des poèmes qui sont ouvertement, par exemple, des théories averroïstes. Donc, on va avoir des éléments philosophiques très importants dans cette confrérie poétique. Mais lui, il veut faire un vrai traité de philosophie en vernaculaire.
Mais est-ce que c'est une philosophie qu'il développe lui-même, ou est-ce que transmet finalement une philosophie qui serait celle d'Aristote et qu'il reprendrait à son compte?
Alors, il transmet beaucoup, parce que effectivement c'est une somme, c'est-à-dire c'est une sorte d'encyclopédie. Donc on a toute une série de doctrines philosophiques très classiques qui sont à l'œuvre, mais disons que c'est un peu la spécificité justement de Dante, c'est que il a une formation, c'est pas un historien de la philosophie, c'est-à-dire que de tous les auteurs, il va faire quelque chose qui sera très particulier, et le mélange qu'il établit fait que en réalité, on peut supposer qu'il veut transmettre la philosophie de certains auteurs, mais il y a tellement de mutations dans les concepts, dans la manière dont il envisage cette philosophie, ou les conjonctions qu'il fait entre des auteurs qui parfois ont un rapport pas forcément évident, qu'il crée quelque chose de complètement nouveau, peut-être parfois même sans véritablement s'en rendre compte. Ce qui fait que beaucoup de commentateurs, à une certaine époque, pouvaient ne pas prendre Dante au sérieux en tant que philosophe. C'est ce que disait Gilson à l'époque, en disant qu'il n'a une formation ni de théologien ni de philosophe. Et donc, bon, ce qu'il raconte, des fois, il y a des erreurs. Il y a beaucoup d'auteurs, des commentateurs, qui se sont intéressés à voir « Oui, mais Aristote dit pas exactement ça ». Et on pourrait dire peu importe, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de restituer Aristote, il s'agit de faire quelque chose avec cette philosophie. C'est ça qu'il fait dans le convivio.
Alors ce qu'il peut y avoir aussi comme lien entre Dante et Aristote, c'est que Aristote affirmait que la science débutait par la sensation, et Dante explore justement le fonctionnement de la sensibilité, et peut-être particulièrement celui de la vue. Je vous propose d'écouter, et puis vous commenterez après, un extrait d'une archive de Jacqueline Risset à ce sujet.
En réalité, Dante parle de son expérience, en fait, comme tous les grands écrivains, ce qu'il décrit, c'est lui, en fait, je veux dire, c'est sa propre vie, c'est son expérience, et son expérience d'enfant aussi. Son expérience d'enfant qui a grandi dans les rues de Florence, et aussi à la campagne, et qui a observé d'extraordinairement près à la fois les phénomènes naturels, le givre, la neige, les inondations, les animaux, les insectes, les fleurs, et tout ça est extrêmement proche. Et disons, ce qui est frappant dans la Divine Comédie, par exemple, enfin lui il l'appelait simplement la comédie, plus modestement, et ce sont ses lecteurs qui l'ont qualifié de divine, mais il disait que ce qu'il décrivait, C'était effectivement ce qu'il voyait. Et il décrit finalement le royaume des morts, hein, l'enfer, puis le purgatoire, puis le paradis. Mais c'est un des endroits les plus vivants qu'il y ait, parce que il y a aussi une chose qui est présente chez Dante, que en général les illustrateurs n'illustrent pas. Ce sont ce qu'il appelle les ce qu'on appelle dans la rhétorique en fait les similitudes, c'est-à-dire les comparaisons développées qu'on a dans toute la poésie antique que Dante reprend. Mais alors ces similitudes, et il les fait pour que le lecteur comprenne, saisisse et voit le monde dont il parle. Et il fait des comparaisons avec l'expérience quotidienne de ses lecteurs. Et là, ce sont des choses qui sont tellement vivantes que tout le monde qu'il décrit en est vivant lui-même. Et les morts qui parlent sont eux aussi des êtres vivants. On a du mal à penser que ce sont des ombres.
Jacqueline Risset, donc interrogée par Colette Felouz en 2001. Dante est donc un observateur, Didier Ottaviani. Il nous raconte ce qu'il voit en le transposant.
Oui, alors effectivement, la vue est absolument centrale chez Dante. Ça fait partie, c'est là aussi un héritage philosophique, puisque depuis les Grecs, c'est la vue qui est, à part quelques cas particuliers comme les épicuriens, mais c'est la vue qui est le sens.
Il n'aime pas trop les épicuriens, de toute façon, non ?
Oui, les épicuriens sont pas en odeur de sainteté.
C'est un peu trop matérialiste pour lui.
C'est un peu matérialiste. Bon, Épicure, de toute façon, est assez discrédité à l'époque. Donc c'est la vue qui va être véritablement l'élément central. Et donc, chez Dante, il y a plusieurs choses. Alors, il y a beaucoup d'éléments qui vont se combiner. C'est-à-dire que faire voir, tout le problème, justement, c'est comment réussir à faire voir des choses qui sont invisibles. C'est la thématique de l'enfer. Donc on va essayer de trouver des analogies. Donc il y a une très grosse littérature, notamment théologique, puisque avant Dante, évidemment, les théologiens se sont interrogés pour savoir comment est-ce que je peux parler de Dieu. C'est-à-dire que parler de Dieu avec des mots qui sont nécessairement des mots terrestres ne peut pas être quelque chose qui peut atteindre l'essence de Dieu. Donc il va falloir faire des analogies. On a toute une réflexion sur l'analogie chez Thomas d'Aquin. Enfin bon, il y a une histoire très compliquée de l'analogie, avec le problème de savoir est-ce que c'est la même chose que la métaphore, parce que le problème c'est que si c'est la même chose que la métaphore, à ce moment-là la théologie n'est plus qu'une poésie, donc ça ne va pas du tout. Et donc Dante est en plein à la charnière des deux, puisqu'il fait une poésie, mais il dit la vérité dans sa poésie. Donc il est obligé d'avoir un système analogique qui fait que, eh bien, il va rendre visible et rendre expérimentable les choses qu'il veut faire voir à son lecteur. Ce qui fait que il y a beaucoup d'images. Alors en enfer, évidemment, c'est très visuel, parce qu'il y a beaucoup de descriptions, il y a beaucoup de comparaisons. Donc par exemple, il veut expliquer les personnages de l'enfer qui perdent leur peau, etc. Donc il va dire comme des gens, alors ils sont rongés par la gale, par la lèpre, etc. Donc des choses qu'on a pu rencontrer dans la vie quotidienne d'un homme du Moyen-Âge. Mais il demande aussi de faire des expériences. Par exemple, il y a une expérience à un moment, il demande pourquoi est-ce que les lumières, je les vois briller de la même nature alors qu'elles sont plus loin, et donc prends trois miroirs, éloigne-les, prends une bougie, une source lumineuse, et place-les à distance, et tu verras à ce moment-là, dans l'observation et dans l'expérimentation, comment ça se fait que les lumières paradisiaques fonctionnent de cette manière-là. Donc il n'hésite pas à faire reconstruire, à demander à son lecteur de reconstruire une expérience simple avec des miroirs, pour pouvoir expérimenter, voir lui-même ce qu'il est en train de voir, puisqu'il est au paradis, mais que lui seul peut voir.
Donc il a des visions, c'est-à-dire que il fait croire ou il laisse penser au lecteur qu'il a vu le paradis, qu'il a vu l'enfer, qu'il a vu le purgatoire et qu'il le leur décrit.
Oui, puisque c'est dans l'idée justement de ce voyage qui est censé être un voyage pas seulement symbolique, c'est-à-dire qu'il y a une dimension fondamentalement prophétique avec l'idée qu'il y a, c'est tout le problème de la légitimité de Dante, problème qui se pose lui-même. Il dit je ne suis pas aîné, je ne suis pas saint Paul, donc qu'est-ce que je peux faire pour expliquer que je sois là? Et donc il n'a pas de justification, ce n'est pas un homme qui mérite de faire ce voyage.
Mais est-ce qu'on le lit au pied de la lettre, à l'époque où il l'écrit?
Alors, Je ne pense pas. C'est-à-dire que ces prophéties sont plutôt au passé, puisqu'il prophétise des choses, puisque la Divine Comédie est écrite à partir de 1308, mais le voyage est censé avoir lieu en 1300. Donc les choses qui se passent, en réalité, qu'il prophétise, il prophétise un peu au passé. Donc il y a une dimension foncièrement symbolique. Maintenant, ça rentre dans un autre genre, qui est un genre assez commun, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des récits d'extase mystique. Mmh. Donc, qui ont un statut de vérité aussi. Donc, on est à la charnière, et c'est ça qui est très difficile dans les études dantesques, c'est-à-dire à quel moment on est dans un texte qui serait celui d'une écriture, d'une expérience prétendue réelle, et à quel moment on est dans une création imaginaire.
Quand est-ce qu'on est effectivement dans la poésie? On va continuer évidemment d'en parler toute la semaine. Merci beaucoup Didier Ottaviani. On peut conseiller à vos auditeurs, à nos auditeurs, votre petit livre qui est très clair, intitulé Dante, l'esprit pèlerin, publié dans la collection Point Sagesse. Et on termine cette émission par notre traditionnelle chronique.
La compagnie des heures. Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et la chronique, c'est en compagnie des revues qui nous est proposée aujourd'hui par Nathalie Iris de la revue Page des libraires. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Vous venez nous parler aujourd'hui de deux livres. Et le premier, il s'appelle Aria. C'est un livre de Nazanine Ozar, traduit de l'anglais par Marc Anfreville et publié chez Stock.
Oui, alors lorsque le livre s'ouvre, nous sommes en Iran, dans les années 50. Un nouveau-né est abandonné par sa mère, à côté d'une poubelle, dans un quartier pauvre de Téhéran. Un jeune homme passe par là, c'est un pauvre chauffeur de taxi de l'armée. Il est ému, il décide de recueillir l'enfant. C'est une petite fille qu'il va appeler Aria, à cause, dit-il, de tous les amours et de toutes les douleurs du monde. Et le ton est donné. À partir de là, nous allons suivre tout au long du livre le destin d'Aria, qui va être ballotté entre trois figures féminines très différentes. D'abord la cruelle Zara qui la maltraite, puis la riche Ferechte qui l'adopte et qui va prendre soin d'elle, et enfin Mary, une femme mystérieuse qui semble détenir les clés du passé d'Aria. Alors il y aura d'autres personnages, notamment masculins, qui vont graviter autour de ces figures féminines et qui sont tout aussi importants pour les péripéties que traversera Aria. Parce que l'intérêt du livre, c'est qu'au-delà du destin personnel de cette jeune fille intelligente et volontaire, c'est tout un pan de l'histoire de l'Iran que l'auteur nous offre ici. La révolution gronde, le Shah d'Iran tente tant bien que mal de conserver son autorité, et les ayatollahs sont à la porte du pouvoir. Ce livre est ainsi un vrai témoignage, donc il rappellera aux plus âgés qui ont probablement encore en tête les bouleversements politiques de l'Iran dans les années 70, notamment l'exil du Shah d'Iran, le séjour de l'ayatollah Khomeini réfugié en France à Naufle-le-Château. Et pour les plus jeunes, c'est un passionnant récit d'une révolution qui a changé à jamais le visage de l'Iran. Voilà, un excellent livre de cette rentrée littéraire qui vient de paraître aux éditions Stock.
Voilà, c'est votre premier conseil. Et la seconde, le second livre de votre sélection, ça s'appelle Une soif de livre et de liberté. Et c'est écrit par Jeannette Skieslen-Charles aux éditions Jean-Claude Lattès. De quoi s'agit-il?
Alors, le livre a pour principal décor l'American Library in Paris, qu'on appelle l'ALP, la bibliothèque américaine de Paris. C'est une bibliothèque qui a vu le jour, donc à Paris, en 1920. Et à l'origine, elle est en fait le fruit d'envois par les Américains de plusieurs milliers de livres aux soldats qui étaient venus combattre en Europe pendant la Grande Guerre. Et depuis, elle n'a jamais fermé ses portes. Et la librairie, la bibliothèque américaine existe toujours et est d'ailleurs fréquentée par de nombreuses nationalités. Et donc cette bibliothèque a été notamment tenue pendant les années 30-40, au moment où se passe le livre, par une personnalité remarquable, une certaine Miss Dorothy Reader, un nom qu'on n'invente pas.
En effet.
Et c'est cette fameuse Mrs. Reader que l'auteur du roman met en scène. Elle imagine à ses côtés un deuxième personnage, une jeune Française, Odile Souchet, qui est engagée et qui travaille donc à la bibliothèque américaine, passionnée par son métier. Le seul hic, c'est que le père d'Odile est un commissaire de police. Et lorsque la guerre éclate, ce personnage ne va pas hésiter à collaborer avec l'ennemi. Alors, que va faire Odile quand elle s'en apercevra? Voilà, j'ai été emportée par ce roman qui est mû par la passion des livres, mais aussi par le courage dont ont fait preuve certaines personnes pendant cette sombre période, jusqu'à aller risquer leur vie pour en sauver d'autres.
Eh bien, merci beaucoup Nathalie Héris. Je rappelle que vous travaillez à la librairie Les Mots en Marge à La Garenne-Colombes. On peut aller vous voir là-bas si on le souhaite. Et puis vos chroniques, vos critiques sont à retrouver dans la revue Page des Libraires. La compagnie des œuvres, Anne-Vanessa Prévost, Romain Billet, Laurence Millet, Laurence Genepin, Didier Pinault, Baptiste Lénard. Demain, troisième épisode de notre série Dantesque, ce sera avec Daniel Robert qui nous parlera de la Divine Comédie. Dans un instant, c'est les sciences sur France Culture.